Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices, ici Radio Grand Ciel, pour notre émission Ensemble. À la régie technique Jean-Marie, au micro Henri, et nous recevons aujourd'hui Monsieur De Vimeux. Bonjour Monsieur De Vimeux.
Bonjour.
Vous vous prénommez Jean-Marie.
Également.
Vous êtes très jeune parce que vous êtes né en 1979. Et vous avez une passion pour tout ce qui est le plus naturel possible et le moins toxique possible.
Voilà.
Donc vous êtes un farouche défenseur, comme nous d'ailleurs, de l'écologie bien comprise. Et donc nous nous sommes déjà rencontrés il y a plusieurs années, il y a 7 à 8 ans, au cours de la présentation d'un film qui s'appelait Après-demain, ou Demain, qui s'appelait Demain. Et à la suite de ce film, donc, qui était un peu prémonitoire de ce qui pouvait se passer aujourd'hui, vous avez créé à quelques-uns une association donc locale qui s'appelle Après-demain 28, parce que 28, c'est l'Eure-et-Loire.
Voilà. Donc, en fait, le film résume pas mal les actions qu'on a voulu mener, c'est-à-dire autant au niveau écologique qu'au niveau social, qu'au niveau éducatif auprès des écoles, et ce qu'on pouvait faire à notre échelle pour avoir une amélioration dans notre quotidien de ces thèmes-là. Et donc, on était une centaine. En 2015, là, au cinéma Le Dunois. Et on a voulu, on avait le réalisateur, et on a voulu, suite au film, pas en rester là. On a voulu créer un collectif qui s'appelait Après-demain 28.
Donc c'est un collectif, il n'y a pas de directeur par définition.
Alors au départ oui, puisque au départ on a fonctionné un an comme ça, sans directeur, parce qu'on voulait que ce soit commun, que tout le monde s'implique. Et après on s'est rendu compte que pour des histoires d'assurance, il fallait quand même une association, un président, un compte et un peu d'argent. Ce qui n'est pas notre moteur de fonctionnement, l'argent forcément, puisqu'on fait beaucoup de choses gratuitement. Et le but, c'est aussi de développer tout ce qui est gratuit et l'échange entre les personnes pour que l'échange de savoir, l'échange de matériel, de choses comme ça, qui va rassembler les gens, en fait.
Et vous-même, si vous pouvez nous dire deux mots de votre formation, de votre parcours professionnel.
Alors, mon parcours professionnel est simple. Moi, j'ai voulu me diriger vers les animaux, vers l'élevage. Et ensuite, j'ai connu la géobiologie. Et donc, maintenant, je suis géobiologue professionnel à temps plein. Et je circule sur toute la France pour aider autant les élevages que les humains dans leur habitat, afin qu'ils se sentent un peu mieux dans leur habitat.
Alors, les animaux, particulièrement, votre cible, c'est quel jeu ? C'est l'élevage ?
Tout élevage. Ça peut aller, alors c'est principalement des vaches laitières, ça peut être du cochon, ça peut être du mouton, ça a été jusqu'au perroquet, jusqu'à la crevette bio de Madagascar. Donc, c'est des visites qui sont mémorables et qui ont une action sur le bien-être des animaux et du coup sur l'économique aussi de l'élevage, puisqu'un animal, dès qu'il est malade, va développer des choses et économiquement, ça ne va pas être si bon pour l'éleveur.
Donc vous avez une palette très étendue.
Ah ben on fait ce qu'on peut, alors voilà.
Polytechnicien.
Pas totalement, c'est ouais, technicien et surtout de terrain. Il faut se former sur le terrain et sur l'expérience. Voilà, on a une palette de autant on regarde tout ce qui est électronique, champ électromagnétique, on a des appareils et puis on fait ce que faisait le sourcier à l'époque avec la baguette et le pendule.
Avec la baguette de noisier pour rechercher la source.
Voilà, des cassures géologiques que le corps humain sait détecter. Donc voilà, et on est de plus en plus en France à pouvoir faire ça. Moi, je me suis installé il y a plus de 15 ans. Maintenant, on est au sein de la CNG, qui est la Confédération nationale de géobiologie, on est plus d'une, à peu près 150 à adhérer. Donc, il y a pas mal de monde sur toute la France.
Autrefois, on appelait les sourciers.
Voilà, c'était les sourciers, mais ils avaient leur importance puisqu'ils passaient avant la construction d'une maison pour pas mettre la maison sur l'eau, voilà, oui. Sur les courants d'eau. Les élevages étaient placés idéalement et on le remarque sur des vieilles fermes, des vieilles maisons où le puits est très proche à côté, mais pas sur l'eau. Donc il y aura une présentation au sein de Après-demain 28 qui sera le 2 avril à Marboué sur la géobiologie, initiation à la géobiologie. Voilà, donc j'en parlerai. Voilà, ça fait partie de l'échange gratuit qu'on a auprès de nos citoyens autour et qui permet d'échanger. Sait faire.
C'est tout à fait d'actualité en cette période de sécheresse, pas tellement en Eure-et-Loir, mais plus bas, dans le Midi, les personnes se plaignent, mais certains ont dit « Ah ben non, quand même, j'ai creusé, puis j'ai trouvé de l'eau quand même », et certains arrivent quand même à...
Bien sûr, après c'est toute une histoire pour l'économiser derrière, et c'est facile d'aller la chercher en profondeur, mais après il faut avoir des techniques pour l'économiser en surface, pour oui. éviter qu'elle s'évapore trop rapidement.
Et dans notre croûte terrestre, il y a non seulement de l'eau en sous-sol, mais aussi de la chaleur.
Bien sûr. Bien sûr.
Et alors, on peut se chauffer sa maison comme ça ?
On peut se chauffer à sa maison comme ça, mais il y a plein d'autres solutions. Quand on regarde la maison que j'ai construite de mes mains avec mon père, on l'a faite bioclimatique et c'est le soleil qui nous chauffe actuellement. Il fait un très beau soleil et c'est le soleil qui nous chauffe. Et on a une facilité de capter les rayons du soleil pour les ramener dans la maison et les stocker dans la maison pour éviter d'avoir à chauffer l'habitation. On peut aussi chauffer l'eau chaude. Ce soir, j'aurai pas à mettre mon chauffe-eau en route puisque le soleil me l'aura fait. Et puis, mon permis de construire est accepté, j'aurai des panneaux solaires sur mon garage qui permettra de boucler la boucle et de faire une maison plutôt passive qui produit plus d'énergie qu'elle en consomme. Et donc, c'est des méthodes qui sont simples et récupération d'eau de pluie, il n'y en a pas beaucoup en ce moment, mais j'ai une citerne de 20 000 litres qui me permet d'être à peu près autonome à l'année sur l'eau. Donc c'est plein de choses comme ça qui peuvent être mises en route pour essayer de préserver l'environnement aussi et d'amener quelque chose de durable à nos enfants et d'éveiller nos enfants aussi à cette écologie.
L'eau que vous récupérez, c'est pour votre jardin ?
Ah non, pour ma consommation, toute ma consommation dans ma maison. On n'a pas besoin de mettre une eau très propre et consommable dans les toilettes. On n'a pas besoin d'une eau hyper propre, hyper hygiénique pour le lave-linge, le lave-vaisselle, la douche. Tout ça, c'est de l'eau de la citerne. Et encore, elle est encore mieux puisque il y a pas de produits dedans.
Il y a pas d'eau de Javel.
Il y a pas tout le reste. Et puis c'est une eau un peu plus acide qui permet d'être très agréable pour le corps, très douce pour le corps.
C'est pour tous, sauf l'eau de boisson.
Alors l'eau de boisson, là, moi je la prends sur le secteur, je la refiltre derrière, mais on pourrait boire l'eau du ciel. Il y en a qui le font.
Radio Grand Ciel. Mm-hmm.
parler des panneaux solaires, mais actuellement, vous en avez déjà sur la maison ?
Alors, j'ai des panneaux qui vont chauffer l'eau. Donc, c'est de l'eau chaude qui passe dedans et qui vont réchauffer mon chauffe-eau. Donc, j'ai besoin de mettre mon chauffe-eau en route seulement en hiver, les 3 mois d'hiver. Sinon, là, actuellement, mon eau est à plus de 60 ce soir et je n'ai pas besoin de mettre mon chauffe-eau en route.
Sans même qu'il y ait des cellules photoélectriques qui chauffent ?
Non, c'est que de l'eau qui passe dans un tuyau noir. Oui. Et qui va, avec une petite pompe, amener l'eau chaude dans le chauffe-eau et va réchauffer le chauffe-eau.
Donc c'est sur votre toit des panneaux ?
Oui, j'ai 4 mètres carrés de capteurs solaires, oui, pour l'eau chaude. Par contre, grâce à Après-demain 28, justement, on a toute une action aussi sur le photovoltaïque. On en reparlera tout à l'heure, de promotion du photovoltaïque. C'est-à-dire que pour 1 000, 1 500 euros, des gens peuvent s'installer eux-mêmes des panneaux solaires et économiser plus de moitié de leur facture d'électricité. C'est assez simple à faire et on aide les gens à Après-demain 28 à réaliser ces toitures. On a un site qui est super bien fait. Vous tapez sur un moteur de recherche Après-demain 28 et photovoltaïque, vous allez tomber sur une page où on vous explique où est-ce qu'il faut acheter de vos panneaux, comment faut les brancher. On les branche juste à une prise de courant. On prend les panneaux, des onduleurs, une protection et une prise de courant. Et ça y est, vous réinjectez du courant dans votre circuit et vous allez... essayer d'autoconsommer le maximum, c'est-à-dire qu'en beau temps comme là, on met les machines à laver, le chauffe-eau, on met tout ce qui peut consommer de l'électricité, la voiture électrique, et on la recharge grâce à des panneaux qu'on a mis soit sur le toit, si on a le droit, soit sur soit au sol, voilà.
Voilà, donc. Pour fabriquer l'électricité dont on a besoin, c'est le panneau solaire. Et pour chauffer, sinon, la maison ou pour l'eau chaude, c'est les panneaux qui n'ont pas besoin de substances rares pour fonctionner.
Non.
Simplement,
ça pourrait être un tuyau noir qu'on aurait mis sur le toit. Mais bon, il y a des panneaux qui sont faits exprès, sous vide et tout, pour optimiser la chaleur.
C'est ça, c'est des serpentins qui passe dedans.
Exactement.
Et donc, c'est intéressant parce que c'est moins coûteux que des panneaux solaires.
Hein. Ah, c'est moins coûteux. Après, les panneaux solaires, c'est pas la même chose. C'est pour faire de l'électricité. Donc, il faut être aussi autonome aussi en électricité. Alors, on ne sera pas 100% autonome avec notre système. Il faudrait des batteries pour être 100% autonome. Et ce n'est pas forcément le but aussi. Mais c'est aussi d'avoir de l'électricité qu'on produit nous-mêmes. Oui. Et puis, pour celles qu'on ne peut pas produire parce qu'il n'y a pas de soleil ou parce qu'il fait nuit, pourquoi pas aller l'acheter à des opérateurs comme l'énergie du Bonne Vallée, qui est des éoliennes ou de l'énergie verte, pour éviter de cautionner les futures centrales nucléaires qu'on va fabriquer.
Et donc, on a parlé aussi de la géothermie, la chaleur de la Terre. Mais donc, vous êtes à Marbouët dans une vallée, c'est plutôt... Un sous-sol qui est marécageux, riche en eau.
Oui, alors ce que j'ai fait sur ma maison, c'est que j'ai mis un puits canadien. Un puits canadien, c'est un tuyau de 50 mètres qui va à 2 mètres de profondeur dans le sol et qui va capter la chaleur quand il fait 0 degré. L'air passe dans ce tuyau, est réchauffé par la terre et arrive à 10 degrés dans ma maison au lieu d'arriver à 0 degré. Donc, il y a 10 degrés de moins à chauffer dans ma maison. Mmh. Et l'été, l'avantage, c'est que ça fait climatiseur. Au lieu d'arriver à 30 degrés, au lieu d'arriver à 30 degrés, elle arrive plutôt à 20 degrés.
Ah oui.
Donc, c'est des systèmes qui sont connus depuis très, très, très longtemps. Il y a dans les années 80 des livres qui ont été publiés pour montrer tous ces systèmes-là. Sauf que... Il y a des enjeux économiques de grosses boîtes qui font que la paille, elle n'a pas été utilisée. Ces systèmes-là sont peu utilisés. Il faut mieux vendre une pompe à chaleur que de se chauffer au soleil. Mmh. Voilà, je pense qu'il y a des gros intérêts économiques derrière qui font que on n'utilise pas des choses simples comme ça et on les a à disposition.
Mais peut-être des petites entreprises se lanceraient dans la fabrication de ces éléments plus simples.
Pourquoi pas, ouais, pourquoi pas, mais c'est comme y a des gros groupes qui ont encouragé au béton et à tout le reste. Regardez ce que ça donne le béton, si on bétonne tout, bah, il faut qu'on fasse une carrière à marbouer, c'est pas forcément logique. Le sable, on n'en a pas forcément besoin tout le temps, on peut faire des murs de paille au lieu de faire des murs de béton.
Et le coût par exemple.
Alors, le coût de ma maison n'a pas été plus cher qu'une maison classique parce que je l'ai fait de moi-même. Si je l'avais fait faire par quelqu'un d'autre, elle aurait été beaucoup plus chère parce que les gens ne savent pas le mettre en œuvre. Mais le liège, par exemple, sur l'isolation, le chanvre que j'ai mis en isolation, qui est un très bon isolant, personne ne savait le faire, donc je l'ai fait moi-même.
Donc, il faudrait former des artisans pour évoluer dans nos techniques de construction de l'habitat.
Bien sûr. Et pourquoi aller chercher de la laine de verre et avec une ultra consommation d'électricité ? Alors ça va diminuer parce que l'électricité va devenir très très chère. Et pourquoi pas aller chercher la paille dans le champ juste à côté pour isoler en paille ? Je vais faire un garage là en bois et en paille. Et ça va très bien marcher. Il n'y a pas de souci.
C'est comme dans les chaumières d'autrefois.
Voilà, non, mais il y a des techniques qui font que c'est plus les petits cochons où la paille elle brûle. Hein. On tasse la paille, on l'enferme dans de la chaux et du coup elle brûle beaucoup moins.
Radio Grand Ciel. Mortales que un día jugaron a ser dioses justos y fieles. Un pétalo frágil que bebe el agua de las historias más crueles. Niños que no escucharon nunca un cuento. Amores que aman con vestidos de arrepentimiento. Cuerpos con años que no disfrutaron la vida. Sueño olvidado de mentes ya siempre dormidas. Y tú, mi bello jardinero, que das a mi pétalo río. Cuánto miedo me da que me dejes crecer para arrancarme luego.
Y alors, dans votre collectif qui est devenu une association, vous êtes combien de membres?
Alors, on est une trentaine d'adhérents, mais le but, c'est plutôt d'encourager les citoyens autour du noix et autour de participer. Comme on vous a dit, c'est pas forcément, on ne veut pas forcément des adhérents pour faire de l'argent, mais plutôt des actifs qui vont faire des actions. Et donc là, par rapport au panneau photovoltaïque, donc on a, je vous parle du panneau photovoltaïque parce qu'on a eu plusieurs actions sur le panneau photovoltaïque. Au départ, on allait chercher des panneaux d'occasion dans le Cantal. Ils nous coûtaient 3 euros, on les remontait pour 1 euro et puis on les revendait 2 euros de plus pour avoir une action au Sénégal. Et depuis 2 ans, on a récolté 2000 et quelques euros pour aller installer des panneaux photovoltaïques au Sénégal sur une école agricole qu'une autre association française et sénégalaise a développée là-bas. Donc la boucle est bouclée. On va faire autant de l'écologie que du social que d'aider les gens à monter leur panneau solaire.
Même un panneau d'occasion, c'est valable pour être réutilisé alors?
Oui, parce que ce panneau-là, il a 10 ans et il a encore 20 ans à produire. C'est dommage d'aller jeter ces panneaux-là alors qu'ils ont encore 20 ans à produire pour un coût qui est minime. Donc là, au départ, on a fait cette démarche-là et on a été aidé par des entreprises dans le Cantal qui démontaient des panneaux solaires qui avaient 10 ans. Maintenant, on encourage plutôt les gens à installer des plus petites installations, mais plus efficaces, en neuf. Et on a une grosse action qui va venir aussi, c'est d'aller monter carrément, de faire un parc citoyen photovoltaïque sur le moulin à temps à Châteaudun. On va demander des parts pour aux citoyens pour financer ces panneaux et participer à l'élaboration d'un toit. Alors, il y aura peut-être... ça sera peut-être des parts de 100 euros et il faudra récolter presque 200 000 euros pour monter la toiture photovoltaïque, mais elle appartiendra à des citoyens. Et donc c'est ce genre d'action-là qu'on veut faire, c'est amener les citoyens à prendre part à leur écologie, dans leur secteur, produire de l'électricité dans leur secteur. Pourquoi aller produire de l'électricité à l'autre bout de la planète pour faire à l'autre bout de la France ou à 200 km de la France d'ici pour aller l'emmener avec des gros câbles qui vont poser des problèmes alors qu'on peut produire de l'électricité sur place. Voilà, c'est des petites choses qu'on veut faire et l'action citoyenne, je pense que c'est une des meilleures actions. Alors il faut aussi l'implication des jeunes. Donc ça, et j'invite les plus jeunes à participer à des associations comme ça, parce qu'on manque de jeunes. On a beaucoup de personnes plus âgées, alors ils sont extraordinaires, puisqu'ils ont beaucoup de temps à nous consacrer, ils ont beaucoup d'énergie encore, et ils ont un savoir qui est énorme, mais on a besoin de jeunes aussi.
Et pour maintenir la dynamique de votre association, vous avez des réunions relativement fréquente.
Alors, on a des réunions tous les 2-3 mois. On se fait une réunion tous les 2-3 mois. Mais par contre, on fait des actions tous les mois. C'est-à-dire qu'on fait, par exemple, un répar café tous les samedis matins, le premier samedi du mois, au moulin à temps. Donc, le principe, c'est quoi ? Vous amenez un petit électroménager et on vous aide à le réparer. On ne le répare pas, on vous aide à le réparer pour que vous ayez la technique pour le réparer et le réflexe de réparer vos choses, vos objets. C'est dommage d'aller mettre un objet à la déchetterie alors qu'il n'y a qu'une résistance qui ne marche pas. Une grosse télé, on a réparé énormément de grosses télés, il n'y avait qu'une résistance qui ne marchait pas. Et un appareil qui vaut 1 euro, 1 ou 2 euros. C'est quand même dommage. Et ça, on apprend aux gens à le faire. On va avoir des cafés réparation, donc on a un jardin partagé aussi à l'association. Donc qu'est-ce que c'est ? Des gens nous prêtent un terrain et on a distribué les parcelles à plusieurs jardiniers.
Où se trouve ce jardin ?
Pareil, c'est à Saint-Jean, dans la rue de Cholet. Et là, on a agrandi, donc il a fallu défricher un petit peu. Et pour le moment, il y a 7-8 jardiniers et puis ça va passer à presque une quinzaine de personnes différentes qui font leur jardin. Après, on a des actions comme une valise à graines. Pour donner des graines, on fait des groupements d'achat. Des groupements d'achat, c'est pour des produits bio, des produits de consommation. Alors ici en Beauce, on n'a pas beaucoup de maraîchers, on n'a pas beaucoup de produits, donc on va aller chercher et on fait profiter les gens. On va acheter 2 tonnes de patates à 30 km d'ici, on les ramène pour tout le monde. Donc plusieurs fois, mais à l'année, ça fait à peu près 2 tonnes de patates bio qui sont consommées dans le secteur. Du vin, des choses comme ça. Et puis après, on a aussi un atelier de couture. On apprend aux gens à coudre. Ah, c'est toujours dans l'autonomie, de prolongation des vêtements ou faire des vêtements. C'est toujours dans essayer de faire nous-mêmes et gratuitement. C'est des cours qui sont gratuits. C'est une personne qui nous aide, qui a l'habitude et qui apprend aux autres. Et puis, on a des ateliers. L'année dernière, on a fait un atelier aussi d'apprendre à ramasser les plantes sauvages dans la nature et de faire de la cuisine avec. Gratuit. Voilà, c'est des gens qui partagent leur expérience. Voilà. Et on aura la géobiologie au mois de... On en a parlé tout à l'heure. Voilà, plein de choses comme ça.
Et donc, pour connaître votre programme, redites-nous comment se connecter.
Alors, sur Facebook, on a le Facebook de Après-demain 28. Donc, vous tapez le groupe Après-demain dans le sud du département de l'Eure-et-Loire et vous retombez sur Après-demain 28. On a plein de renseignements là-dessus. Sinon, on a un site aussi. Vous tapez Après-demain 28 sur Internet et vous allez tomber sur notre site. Donc on a notre nos programmes. Et puis pour ceux qui n'ont pas forcément trop internet et qui ont qu'une boîte mail, bah ils peuvent nous demander d'envoyer
la programmation
sur une boîte mail.
Et vous avez des programmations tous les 3 mois, en gros?
Ah non, tous les mois, on a des programmations. Oui. Et puis, ceux qui veulent s'investir et proposer une intervention, oui. Ça a été aussi balade dans la nature pour découvrir les oiseaux, ça a été fabrication de nichoirs, toutes ces choses-là, bah, les gens peuvent venir vers nous et nous demander de faire la promotion de ça et d'amener du public, mais c'est eux qui font gratuitement l'intervention.
Donc oui, partager leurs connaissances.
Voilà, tout dans le social, vraiment amener aussi du social dans nos vies et de l'écologie.
Et en revenant à votre atelier de réparation qui a lieu tous les premiers samedis du mois, le matin de 9h30 à midi au Moulin à Temps dans la vallée de Loire, donc à Châteaudun, est-ce que vous dites que vous nous aidez à réparer, mais il y a quand même des outils pour démonter, que vous avez quand même des outils.
Il y a des spécialistes. Il y a toujours des spécialistes, on est 4 ou 5, à vous aider à préparer. Et si vous n'y arrivez pas, on vous le répare. Mais c'est toujours juste le fait de démonter l'appareil, la personne s'est impliquée et ce n'est pas compliqué à faire.
Voilà.
Ils ont tout pour réparer.
Donc vous cherchez vraiment l'implication de tout le monde.
Il y a plus de 80%, les objets sont réparés à la fin. Oui. Donc c'est dommage de les avoir mis à la déchetterie.
C'est vraiment un bon message là, que vous venez de nous envoyer. Qu'est-ce qu'on pourrait encore dire?
Alors... oui, ici, on a aussi quelque chose qui nous a lancé aussi pas mal. C'est le marché du gratuit. Alors, ces marchés du gratuit, comment ça se passe? Eh bien, on vient avec des objets, comme si on faisait une brocante, sauf qu'on donne tout. Alors, le but, c'est de prolonger la vie des objets aussi. Des gens auraient pu dire, on n'en a pas besoin, donc on le jette. Eh bien non, ça peut être utilisé à quelqu'un d'autre. Et dans nos marchés du gratuit, c'est souvent où on a calculé une fois, on a permis de recycler un camion entier d'objets. 30 mètres cubes d'objets. Alors ça se passe souvent à Châteaudun, dans les quartiers de Châteaudun, ou à Marboué, ou à Brou, on les a fait un peu partout. Le but, c'est de dire, mais n'importe qui peut prendre un objet s'il a besoin de cet objet. Mmh. Et en contrepartie, ça serait bien qu'on le donne aussi.
Oui, voilà. Oui.
Dans la même veine, on a fait des boîtes à dons. Des boîtes à dons, des boîtes à livres. Alors, il y en a un peu partout qui se sont développées. Mais, alors, la boîte à livres, tout le monde connaît. Et la boîte à dons, c'est un casier de plus en dessous où les gens mettent des petits objets, des objets qu'ils ne veulent plus. Et les gens se servent à côté. Il y a un Facebook qui s'est développé à côté de chez nous. C'est Dons et Récup dans le Bonne-Vallée du Noix. Qu'est-ce que c'est? Les gens, tous les soirs, quand ils veulent donner quelque chose, ils le mettent sur ce Facebook-là et des gens qui sont intéressés disent « Ok, moi, je veux bien cet objet. » Et ils se donnent rendez-vous et l'objet est sauvé de la destruction.
Encore merci pour tout ce que vous avez raconté et au revoir, monsieur Jean-Marie Devumeux. Et on se connecte sur Après-demain 28 sur Internet. Pour rester en relation avec votre formidable association.